Et on peut considérer que les écoles, aujourd'hui, en 2024, continuent à fonctionner sur ce même système, un directeur d'école ou une directrice d'école et des adjoints ou des adjointes, d'une part. Et d'autre part, il va aussi mettre en place, grâce à cette idée des écoles chrétiennes, l'idée que le maître est maître après Dieu. C'est-à-dire il y a Dieu, et puis en dessous, il y a le maître sur son estrade, et des enfants qui sont classés par âge, d'une part, par sexe jusqu'à un certain temps. Dans les années 50-60, on a commencé à établir la mixité en France, des écoles primaires, hein, faut le savoir. Et donc, tout ça, ce mode de fonctionnement, quand Jules Ferry reprendra le pouvoir dans les années 80, quand il sera chargé de l'éducation nationale, toujours l'instruction publique d'ailleurs, il va instaurer une école qui sera celle de Guizot de la même manière. Et il faut savoir qu'on est toujours régi par ce mode de fonctionnement. Un maître, une classe et un directeur d'école. J'explique tout ça parce que c'est sur ces deux sujets que l'école Vitruve va montrer autre chose, va mettre une autre forme en place petit à petit. Ça ne s'est pas fait du début 62 à aujourd'hui, mais ça s'est fait progressivement, petit à petit, par une espèce de maîtrise petit à petit de l'organisation, ce qu'on appelle un peu la maturité organisationnelle. Et ça s'est mis petit à petit en place. Et c'est ça qui est intéressant au niveau autogestionnaire, au niveau coopératif, au niveau collaboratif, comme on dit dans les grandes instances. Et ce format scolaire, en fait, a à voir avec une remise en cause du système de Guizot-Ferry, je pourrais résumer comme ça, qui régit les écoles de un peu partout en France. Et c'est sur ces deux points que je vais revenir. Donc, Vitruve, à partir des années 70, va remettre en cause le système organisationnel lié à la direction d'école. À partir de 1970, Robert Gloton va permettre à un certain nombre d'écoles de son groupe expérimental, qui va péricliter dès les années 70, va permettre aux écoles qui ont essayé de fonctionner différemment, il va coller ce qu'on appelle un remplaçant permanent qui prendra le rôle de coordination. Donc, à un moment donné, dans quelques écoles du 20e notamment, mais pas que du 20e, aussi dans toute la France, il y a 80 écoles expérimentales qui vont être créées à un moment donné par l'INRP, par le ministère donc. Et dans toutes ces écoles expérimentales, il y aura un coordinateur ou une coordinatrice. À Vitruve, la particularité de Vitruve, ça a été très vite, dès la première année, une fois que ce poste a été créé de coordination, de faire en sorte qu'il y ait roulement sur ce poste. Donc tous les ans, un membre de l'équipe prenait cette place de coordination. Alors il ne faut pas confondre à Vitruve un rôle de coordination avec celui qui a pu être pris dans d'autres écoles. À Vitruve, c'est un poste de coordination qui ne remplace pas la direction de l'école primaire, mais qui fait tout autre chose. Donc là, il y a une remise en cause du poste de direction et donc du poste d'adjoint, puisque tous les membres de l'équipe qui va fonctionner à Vitruve vont avoir la possibilité de devenir coordinatrice ou coordinateur au cours de toutes ces années. Donc c'est un point très important, c'est un des piliers sur lequel repose l'école Vitruve, un des premiers piliers. Il y a un autre pilier qui est effectivement la remise en cause du maître sur son estrade et du travail dans la classe. Le problème des écoles en général, de toutes les écoles, mais aussi le problème que, je touche une divergence qu'on peut avoir avec le mouvement pédagogique, à Vitruve, on ne travaille plus en classe avec un maître, une classe. On travaille sur des formes de binômes, trinômes. On est deux ou trois par rapport à un groupe d'enfants, mixte évidemment, mais mixte aussi au niveau des âges. Donc c'est très important, là on remet en cause le deuxième pilier sur lequel l'école de Guizot-Ferry est montée, qui est, je rappelle, toujours celle qui tourne encore dans toutes les écoles françaises et de Navarre, qui est un directeur d'école ou une directrice d'école, et puis un maître, une classe. Donc Vitruve va essayer de fonctionner sur ces deux points-là de manière très différente. Elle va découvrir ce format scolaire qui est très différent et qui donc peut être une explication de la longévité de cette école, de cette durée. Et c'est là que je la raccorde à la, à la similitude qu'on peut faire de Vitruve. C'est un peu comme si Vitruve retrouvait le cours d'une possibilité. C'est vrai qu'en France, l'État a décidé que l'école serait comme ça, avec un directeur et un maître par classe. Vitruve propose un autre modèle, et que ce modèle a l'air d'être inventé. Il n'est pas inventé par Vitruve, il est retrouvé par Vitruve. Je pense que c'est très important, parce que ça, de mon point de vue, ça permet d'étayer l'hypothèse que Vitruve, en fait, n'a fait que remettre le format scolaire qui était possible et qui a fonctionné. Les écoles à classe unique fonctionnent. Les écoles mutuelles ont fonctionné. Elles étaient d'ailleurs celles qui étaient privilégiées par tout le mouvement révolutionnaire dans le milieu du 19e siècle. Et donc, notamment libertaire, mais pas que, par la Commune de Paris, par un certain en 48, par exemple, à chaque fois, il y a eu cette tentative de recommencer l'école mutuelle et de se débarrasser un peu du modèle établi par les écoles chrétiennes. Donc, si je reviens là-dessus, c'est parce que ce sont deux points importants qui, pour moi, expliquent en partie le fait que l'école Vitruve puisse encore perdurer. Et je tiens à signaler que quand je m'étonne devant vous tous et toutes que cette école continue à fonctionner, je suis même étonné moi-même. D'ailleurs, 62 ans d'existence dans un mode de fonctionnement de ce type, qu'on peut considérer qu'il n'a pas 62 ans, mais qui a environ une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, et continue à fonctionner. Il faut savoir que l'école Vitruve, en 92, a été déménagée de son lieu et est passée de la rue Vitruve, où elle habitait, au passage Josaume, qui est un petit peu plus loin du côté de la place de la Réunion, a été déménagée par donc tous les deux édiles municipaux et rectoraux, a été déménagé en l'état, c'est-à-dire avec une coordination tournante qui continue depuis 32 ans. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est très surprenant de la part de l'éducation nationale, mais et qui porte à l'étonnement un certain nombre de gens. Il y a un chercheur qui s'appelle Yves Rotter qui a fait une étude sur l'école Vitruve en 2019, de 2018 à 2019, et se pose la question de, c'est vrai qu'on devrait s'interroger sur cette longévité, cette pérennité de l'école, parce que peut-être elle apporterait des solutions ou au moins des pistes pour essayer de faire perdurer ce genre d'expérience. Il y a d'autre part d'autres personnes qui se sont interrogées aussi. Les mouvements pédagogiques se sont peu interrogés sur la question. C'est un point de divergence que j'ai personnellement avec les mouvements pédagogiques, quels qu'ils soient, sur le fait que donc je vais revendiquer ça, parce que si je parle aujourd'hui, je ne parle pas au nom de l'école Vitruve qui continue d'exister. Moi, je suis parti il y a 12 ans, et donc je parle en mon nom. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui m'inquiète toujours un petit peu dans les lieux de formation, dans les types de formation qui sont opérés par les mouvements pédagogiques en France, que dans les grands mouvements pédagogiques, en tout cas. Je parlais par exemple du GFEN ou de l'ISEM. Je suis toujours très étonné parce que très souvent, les formations qu'ils opèrent utilisent systématiquement un travail sur ce qui se passe dans la classe, jamais au niveau de l'école. Et c'est un point de clivage qu'on peut avoir, et qu'en tout cas que j'ai avec les mouvements pédagogiques, et qui me semble porter tort à ce qu'on pourrait essayer d'établir au niveau coopératif et collaboratif. Il y a d'autres personnes qui s'interrogent, c'est les inspecteurs généraux. Il y a en décembre 2022 un texte qui a été produit, qui est un rapport, qui a été établi et distribué au ministre. Peut-être que ça a été rangé dans un tiroir, certes, mais il a été écrit par des inspecteurs généraux qui considèrent que, donc, il y a un titre qui est donné, c'est, en gros, ils résument la chose, comment l'école Vitruve puisse perdurer depuis si longtemps, et ils ont l'air de dire que oui, c'est quelque chose qui est un pilotage qui répond aux souhaits des enseignants. Bon, c'est une manière pour eux de considérer que c'est le pilote, donc Robert Gloton, qui aurait créé l'école Vitruve, ce qui n'est pas tout à fait historiquement exact. C'est vrai qu'il a permis que le groupe expérimental existe, et c'est à l'intérieur de ce groupe que Vitruve est né, mais Vitruve s'est construit bien au-delà et bien après. Donc les inspecteurs généraux considèrent qu'effectivement, il y a quelque chose à étudier de ce côté-là, qui permettrait d'en savoir davantage. Et je pense que la maturité organisationnelle dont je parlais tout à l'heure est un des éléments. Vitrus est toujours organisé et continue de s'organiser, à la fois sur la coordination, à la fois sur le fait qu'il n'y a pas un ou une maîtresse ou institutrice, instituteur ou professeur des écoles aujourd'hui par classe, mais plusieurs. Et puis que la coordination tourne. Or, c'est très étrange, c'est que les mouvements pédagogiques ont du mal aussi avec ce sujet-là, notamment certains qui considèrent que ce n'est pas le sujet et qu'il faudrait plutôt s'occuper de la pédagogie, de ce qui se passe à l'intérieur de la classe, mais c'est toujours autour de la classe. Donc je voulais revenir là-dessus pour essayer de faire songer, de faire réfléchir, de faire s'interroger sur est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire un peu plus sur le sujet de passer de la classe à l'école et de passer de la fin de la direction d'école, parce que je pense que la coordination tournante est une réponse à la pérennité d'un projet qu'on pourra avoir de ce type. Voilà, je vais laisser la parole à la salle, comme ça on pourra échanger et préciser peut-être des choses. Je laisse revenir les camarades de Radio Libertaire jusqu'au micro pour pouvoir continuer. Voilà. Et je veux dire en une dernière chose, c'est que Vitruve prouve que ce projet est possible et plausible.
Merci. GG, comme on dit, et des questions dans la salle. Et apparemment, il y a au moins une question ou une remarque. Une remarque, voilà. Et donc, on évite les blancs, si on peut aussi, puisque nous sommes en direct.
Merci, monsieur. Tite Rosel, donc, de l'île d'Oléron. Moi, je voulais faire une critique sur les propos tenus par GG de Vitruve. C'est l'humilité qu'il donne au nom de l'équipe. Je crois qu'il y a quand même... Alors, j'ai participé... En tant que relais, j'ai bossé avec des instituts de Vitruve. Il y a la famille qui y a été. On était dans le quartier. Il y a quand même des invariants qui sont fondamentaux, GG, qui est la volonté et la individuelle de chaque institut, et je parle bien d'institution des savoirs, hein, institut, à rester à Vitruve malgré les emmerdes. Hein, malgré toutes les difficultés avec les populations scolaires, avec les pressions administratives, ça va au-delà du métier. C'est quand même une façon de voir son métier et sa vie autrement. C'est la première chose. Parce que ce qu'oublie Gérard, c'est qu'il y a une grande implication sociale et intellectuelle de la part des adultes. De Vitruve intellectuelle, non pas en termes de quel neurone passe par telle synapse, mais bien pourquoi je fais les choses et qu'est-ce qui est important dans la vie de l'enfant. Ça, c'était ma première critique, plus que positive, auprès des collègues. La deuxième, c'était quand même la place de Vitruve dans le quartier et auprès des familles. Et je voudrais que tu nous en parles un petit peu plus pour éviter de parler que de la classe, justement.
On va prendre une salve de questions, si tu veux bien, Gérard, plutôt, hein, et tu répondras globalement. Et n'oubliez pas de vous présenter aussi, ce que je n'ai pas fait, Tite a été une des fondatrices de l'école Bonaventure d'Oléron pour les informations.
Donc, militante à la CNT et professeure des écoles. Moi, je voulais juste rebondir sur la question de l'organisation d'une école autour de la direction et d'un coordinateur tournant et d'éventuellement la liberté pédagogique. Aujourd'hui, moi, je participe à des groupes GFEN, ISSEM, je me balade un peu partout. Je suis vivement intéressée par les questions pédagogiques. Et c'est des questions qui se posent, c'est même des choses qui sont parfois mises en application dans certaines écoles. J'en ai fait l'expérience. Et quand on fait l'expérience de prendre certaines libertés aujourd'hui à l'éducation nationale, on fait aussi l'expérience de la répression, d'une répression hiérarchique très dure, très violente. Et donc Vitruve est un très bel exemple, et il est sans doute protégé parce que ça fait longtemps, parce qu'il est entré dans le cadre d'une dimension expérimentale. Mais aujourd'hui, si on veut refaire un Vitruve, entre guillemets, c'est très très compliqué. C'est très compliqué et on prend très très cher. Et ça, c'est vraiment, il faut le savoir. Et c'est pas une question de l'ISSEM, ils veulent pas en parler. C'est juste que derrière, c'est notre carrière qui est foutue, c'est des humiliations en série devant des jurys, devant des inspecteurs à la DSEN, et c'est atroce à vivre. Voilà.
Merci à toi. Une autre question ou je rends la parole tout de suite à... Voilà, je me déplace doucement. Voilà.
Eh bien, merci d'abord. Et moi, je suis tout juste sortie de ce système d'éducation nationale. Et je me demandais comment ce modèle peut faire face à des classes de plus en plus remplies. Et comment... parce que nous, on était dans des classes, certes, pas mixtes au niveau âge, mais déjà avec peut-être 35-40 élèves par classe, même en primaire. Et du coup, est-ce que ce modèle peut donner une alternative à ce nombre important d'élèves pour très peu de professeurs ?
Merci à toi. Donc, GG.
Donc, ouais, j'essaie de répondre sur les 3-4 questions posées. Concernant les instituts, TID soulève la question de l'enthousiasme. Là, je prépare un texte qui s'appelle École Vitruve, exactitude de l'enthousiasme. Parce que, elle a raison, c'est vrai que Vitruve a été maintenu, on va dire, hein, pas créé, mais maintenu par des gens qui se sont trouvés bien, ou en tout cas utiles, efficaces dans ce lieu, et ont effectivement prouvé qu'il fallait y rester un certain temps et y donner une certaine énergie pour le réussir. Mais je crois que de toute façon, tout projet humain, notamment révolutionnaire ou libertaire ou alternatif, mérite qu'on s'y attache. Donc je suis en train d'étudier j'ai fait une petite étude très rapide, peut-être un peu succincte, mais ça donne un bon sujet de thèse pour une troisième cycle, je pense. J'ai essayé de mesurer le nombre de gens qui sont passés dans cette école. Et je suis arrivé à un chiffre, alors bon, je le savais pas, je m'en doutais un petit peu, mais j'étais pas sûr, et je suis arrivé à un chiffre extraordinairement bas. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il y a eu une petite centaine d'instituts présents dans cette école. C'est-à-dire que si on ramène tout ça à la vie des instituts qui ont été réellement présents dans cette école, ça veut dire que certains et certaines, il y a 30% d'hommes, 70% de femmes, si je fais un partage aussi simple de la vie. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Je pense que le nombre... Alors, j'ai fait un petit calcul, j'ai essayé de savoir si pendant 50 ans, chaque institut était resté un an, il en fallait 500. S'ils étaient restés 50 ans, il en fallait 10. Alors, évidemment, le chiffre X du nombre d'instituts nécessaires se trouve entre les deux. Bon, j'ai un peu rassemblé et puis j'ai trouvé qu'effectivement, ça pouvait être entre 125 et 250. Voilà. Et Vitruve est autour de 100, c'est-à-dire un chiffre extraordinairement bas. Donc ça veut dire que les gens sont restés très longtemps dans cette école. Alors après, on peut se demander pourquoi. Alors peut-être que ça correspondait effectivement, comme dit Tide, à leur choix militant, à leur choix de faire quelque chose, et aussi à leur degré de résistance et de possible énergie à dépenser. C'est vrai qu'à Vitruve, à un moment donné, on disait, mais si les instituts font 35 heures par semaine... alors qu'ils ne faisaient pas 35 heures sur place, mais peut-être qu'ils en faisaient 35 quand même au niveau du boulot, mais nous on y passait 50 heures. C'est sûr que Vitruve aussi a renoué avec un certain nombre de tâches et d'œuvres du mouvement révolutionnaire qui étaient de s'occuper réellement des choses et de passer un peu ce qu'on disait du travail à l'œuvre. Et donc ça participait effectivement à la raison de faire remarquer que le nombre d'instituts aussi faible, donc ça veut dire en y passant un temps très important en termes de durée, mais aussi en termes de temps scolaire, de travail, est important. Donc c'est vrai qu'il faut s'y attacher. La deuxième question sur le quartier, oui, c'est vrai que le Vitruve est né dans un quartier difficile. Bon, c'était surtout un quartier en démolition à l'époque, dans les années 60, puis après jusqu'aux années 80-90, c'était un quartier qui s'est repeuplé, etc. Il y a eu un équilibre. C'est vrai que l'école s'est fondée pour essayer de permettre à des enfants qui n'arriveraient pas dans le secondaire à y arriver. C'est ça qui a fondé le projet de départ. Donc le travail avec dans une deuxième partie, l'école Vitruve s'est attachée à travailler avec les associations du quartier, les travailleurs du quartier, etc., et d'être une espèce de territoire éducatif en expansion. Donc c'est vrai que le quartier a fait partie de la constitution de l'école Vitruve. Elle a raison de le rappeler. Là, j'étais un peu court et un peu rapide, mais il y avait un temps restreint. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il faut discuter de cette place que l'école Vitruve était comme un poisson dans l'eau dans son quartier. Par plein de raisons. Elle a participé à des cafés associatifs. La Moitrieuse, qui était sur la place, a participé avec les gens de ce qui est devenu le DAL, après un certain nombre d'actions et de luttes où elle s'est introduite dans son quartier et elle était présente dans son quartier. L'autre question sur la hiérarchie. Alors c'est vrai que j'ai l'air de jouer les triomphalistes ou d'une période. Bon, j'ai dû peindre en rose ce que j'ai vécu. Moi, je me suis arrêté en 2012. C'était déjà difficile en 2012. C'était déjà difficile dès 2002, hein, même à Vitruve. C'est vrai que les rapports avec les inspections ont été difficiles, même à Vitruve. Il n'empêche que peut-être qu'elle était protégée, je ne sais pas par qui, parce qu'on a eu quand même très peu de protection dans les hautes sphères, même s'il y avait des réseaux qui permettaient d'avoir l'établissement d'une relation cordiale avec les inspections, etc. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui. C'est vrai que l'éducation a pris un tournant technocratique très important, autoritaire aussi, qu'elle n'avait peut-être pas à l'époque où Vitruve est né. Mais quand Vitruve est né, il y avait aussi d'autres gens qui tenaient exactement ce même discours. Moi, j'ai fait des interventions depuis très très longtemps à Vitruve, et on avait aussi, on nous disait aussi dès les années 60. J'ai interviewé une camarade, qui s'appelle Huguette Cordelier. Et Huguette raconte que dans le mouvement en Freinet, pour ne parler que de ça, c'était très difficile de laisser entendre qu'il était possible d'essayer de passer de la classe à l'école au niveau de la gestion, de l'organisation, du travail pédagogique. C'était déjà vrai. Dans les années 70, ça a été la même chose. Il y a 80 écoles expérimentales qui ont été créées. Bon, et dans toutes ces écoles expérimentales, il y avait un coordinateur. Il n'a de mémoire, et peut-être que on me permettrait d'être démenti, mais il n'y a aucune coordination dans les écoles expérimentales créées de plein exercice. On appelait ça école expérimentale de plein exercice, voir d'où on est passé, quoi. En 72, il n'y a eu aucun lieu dans lequel le coordinateur ou la coordinatrice de ces écoles est devenue une coordination tournante. Et pourtant, je pense que c'est un des moyens et des motifs essentiels de faire autre chose. Donc c'est possible. Après, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Voilà, c'est pour revenir là-dessus. Je ne veux pas avoir l'air d'être triomphaliste. Et que c'est très compliqué. Sur le nombre d'enfants, c'est là aussi que on peut dire que c'est difficile. C'est vrai, dans le format imposé par Guizot, Ferry et accepté par un peu tout le monde depuis 140 ans, à savoir, bon, bah, c'est un instit, une classe, un prof, un cours. Je pense que justement Vitruve a essayé par moments dans des formats très différents. Moi, j'ai essayé de travailler avec d'autres camarades de l'école. On travaillait sur des formats qui allaient de 2 enfants à 100 enfants. Tout dépend, effectivement, si le motif de travail... Et il y a plein d'expériences. Il y a même des expériences qui sont faites dans des lieux qui ne sont pas Vitruve, qui ne sont pas des lieux collectifs, gérés par un collectif, et qui essayent ce genre de choses. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mesure... à proprement parler, du nombre d'enfants dans un groupe. Je veux dire, faut sortir de cette vision-là. Ça, tout dépend ce sur quoi on travaille. Tout à l'heure, le film a bien montré qu'il y a plein de choses qu'on peut faire indépendamment et que le territoire éducatif peut être en expansion aussi sur le nombre d'enfants dans les groupes. Donc, je ne pense pas que ce soit un argument. Au contraire, je crois que là, l'école mutuelle, alors avec toutes les critiques qu'on peut lui apporter, hein, l'école mutuelle, ce n'est pas forcément la panacée, telle qu'elle était vécue, et dans le mouvement ouvrier, et en France, jusqu'aux années 1850 à peu près. C'est vrai qu'on peut apporter des critiques aussi. Mais le travail s'opère en fonction de quel est le motif du travail, quel est le sujet du travail, quel est l'objet de ce travail qu'on fait avec des enfants, et comment on leur permet d'être producteurs de leur propre savoir. Je pense que c'est sur ce niveau-là, on peut dépasser le cadre de ça. Même si c'est pas facile, Je dis simplement, il y a des réticences, et c'est ces réticences que j'essayais peut-être maladroitement tout à l'heure de marquer, de montrer qu'il y a des convergences avec les mouvements pédagogiques ou avec des gens qui cherchent sur la pédagogie, et aussi des divergences. Je pense que quand on a des désaccords, la moindre des choses, c'est de les mettre sur la table et puis de discuter, parce que c'est aussi porteur de formation, un désaccord. Voilà.
Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Des compléments ? Oui, je te cède le micro.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Massu. J'ai mes deux filles qui sont à Vitruve depuis, on va dire, 3 mois. Mais ça fait très, très longtemps que je pense à cette école. Mais on est parti vivre à la campagne entre-temps. Donc, on est à Vitruve. Et avant cela, mes enfants étaient donc dans un petit village de 400 personnes. Donc, effectivement, avec des classes uniques, une classe unique. Enfin, il y en avait deux. Je voulais juste vous dire une chose, c'est que l'école est en danger aujourd'hui, même si effectivement il y a encore toute cette incroyable énergie de la part des instits qui, moi, me fascine complètement, cette volonté effectivement à faire perdurer cette école. Dans les mêmes le même projet hein, que depuis votre travail et tout le travail qui a été fait. Moi, par ailleurs, j'enseigne en école d'art, donc je suis professeur de culture visuelle à l'Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Et le modèle, effectivement, de Vitruve devrait s'appliquer aux écoles d'art, par exemple. Je veux dire, l'idée de coordination m'échangerait le monde, quoi. Enfin, dans les écoles, c'est... Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour dire que... Bah, c'est toujours une école absolument fabuleuse, mais malheureusement, elle est un peu en danger avec les nouvelles lois, les questions de regroupement de groupes de niveaux. Alors, je crois qu'ils ont changé l'appellation, mais enfin, c'est pareil. Et voilà. Et je pense qu'en partie, il y aura aussi des parents qui vont se battre pour qu'il y ait des choses qui restent, en tous les cas. Voilà.
Oui, juste un point là, parce que tu disais que Vitruve était en danger. Cet après-midi, il y a les camarades du LAP qui sont là, et le LAP, le lycée autogéré de Paris, est plus qu'en danger, puisque visiblement le projet va être refondu par le rectorat, et on imagine dans quel sens. Et les copains du lycée de Saint-Nazaire sont là aussi, et si les craintes ne sont pas immédiates, il y a quand même des inquiétudes importantes. Voilà, à toi.
Ok, pardon. Donc Noémie, je ne revendique rien, je ne suis pas particulièrement qui que ce soit. Désolée si ma prise de parole est nébuleuse. Je me suis questionnée la problématique de l'autogestion, notamment comment structurer une émancipation de l'initiative individuelle vers une organisation collective et horizontale. Et j'ai trouvé que la notion de coordination tournante était très intéressante, mais donc insuffisante. Et je voulais savoir s'il y avait des initiatives supplémentaires qui étaient mises en place. Et aussi, donc j'entends et je remarque une situation problématique dans l'ensemble des écoles expérimentales. Est-ce qu'il y a une structure collective où il y a des assemblées de réflexion sur des initiatives possibles ? Voilà. Est-ce qu'il y a une collectivisation des problématiques entre les écoles expérimentales pour engendrer des assemblées sur des initiatives possibles ? Peut-être que c'est une question qui va être abordée plus tard, je ne sais pas.
On peut déjà commencer à y répondre.
Oui, je peux essayer de dire. La coordination tournante, c'est un des éléments de l'école, et effectivement, ça protège pas a priori ni l'école ni le groupe d'enfants. Ce qui est, c'est que c'est vrai que le fait que ce soit tournant, ça permet de renouveler et d'être un milieu ou un lieu d'apprentissage pour tout le monde, notamment pour les instits. La coordination tournante, elle a aussi évolué dans les années à Vitruve pour s'entourer d'enfants. C'est-à-dire que un des principes à Vitruve aussi, c'était de se dire tout ce qui serait bon pour les adultes pourrait peut-être être tenté de s'appliquer pour les enfants, et tout ce qui est bon pour les enfants, de regroupement, etc., pourrait peut-être être bon aussi pour les adultes. Donc ça, on a toujours fonctionné un peu dans le croisement, ça porte un nom scientifique en sciences de l'éducation, mais je le connais, je m'en rappelle plus. Ce mode de fonctionnement a permis effectivement d'avoir des garde-fous. Effectivement, il y a pu avoir des coordinateurs, coordinatrices qui prenaient une place beaucoup trop importante, même si le fait de tourner permettait de corriger le tir. Même chose appliquée aux enfants. Comment dans un groupe d'enfants, les assemblées d'enfants n'étaient pas seulement des assemblées, dirions-nous, de fabrication de l'apprentissage. C'était aussi des lieux de décision, des lieux de discussion, des lieux de ce qu'on appelait les plaintes, peut-être c'est pas le mot qui était bien choisi, mais de médiation en tout cas, dans les conflits d'enfants. Tout ça est toujours mis en place parallèlement, et ça l'est toujours. D'ailleurs, je crois qu'à Vitruve, ça continue à fonctionner, même si les mots ont changé, même si il y a des vocables, etc., qui peuvent être déplacés et renouvelés. Mais tout ce mode de fonctionnement permettait, notamment quand on travaille dans le problème des médiations de conflits entre enfants, quand on réunit des enfants, assemblées, réunions, tout ça, ce sont des termes qui ont été empruntés au mouvement révolutionnaire, hein, et au mouvement ouvrier. C'est pas des termes que Vitruve a inventés, c'est des choses qui existent. On essayait, le fait d'être deux ou trois adultes par rapport à ce sujet-là, ces sujets de règlement de conflits ou médiation de conflits, d'essayer toujours de tirer une solution pratique utilisable par les enfants. Bon, c'est pour ça qu'il y avait nous, les enfants à Vitruve, descendaient l'escalier comme ils voulaient, pour les moments de pause, de récréation, etc. Parce qu'à Vitruve, il y a toujours des récréations. Hein. Et donc, le problème de l'escalier pouvait être un moment de danger. Bon, il y a eu des régulateurs de descente d'escalier. Ils ont désigné des régulateurs de descente d'escalier. Et ça existe toujours, je pense. Il y a toujours ce genre de truc. Là, au niveau des repas du midi, il y a toujours des régulateurs, parce qu'il n'y a que 60 places, je crois, à la cantine, dans la salle de repas. Eh bien, on ne peut pas arriver. Ils sont 230, je crois, actuellement, ou 220. Il y en a peut-être 200 qui mangent. Bon, on ne peut pas arriver les 200 en même temps. Enfin, il y a toutes sortes de choses, de mouvements de foule qui doivent être régulés et comprises par les enfants et discutés. Donc tout ça, et j'en ai pas parlé, parce que je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais ça participe effectivement de manière très importante. Mais toujours avec le regard on essaye d'appliquer d'un côté ce qu'on fait ou ce qu'ont inventé les adultes, ou ce qu'essayent les adultes, avec ce que vont essayer les enfants, quitte aussi à avoir un regard de recul et de critique de tous les essais. C'est-à-dire que moi, j'ai le terme d'SPE, on prend des décisions hésitantes. Voilà, il faut qu'une décision qui soit prise pour un problème qui se pose à un moment donné, pour des adultes ou pour des enfants, soit toujours hésitante dans le sens où, eh bien, elle peut être mise en cause sans que tout s'écroule. Simplement, on bouge un peu, voilà. Et tout ça est très important. Donc moi, j'ai pas fait la liste de tout ce qui est important à Vitruve, qui a aussi constitué mon état intellectuel d'aujourd'hui, parce que je crois que moi aussi, je me suis formé, auto-formé, co-formé à ce qui s'est passé dans Vitruve. Je suis aussi le produit de ça. Comme je suis le produit aussi de quelque chose qui s'est passé dans les années 50-60, où d'un seul coup, l'État français s'est découvert que, merde, on avait un nombre incalculable d'enfants qui allaient atteindre le secondaire et qu'il fallait absolument que quelque chose se passe dans l'école. Donc, vouloir tout ça fait que je suis aussi, moi, le produit de cette démocratisation, avec plein de guillemets si vous voulez, mais importante, de l'éducation. Voilà. À un moment donné, c'est vrai que Vitruve a rencontré, alors peut-être avec de la chance, des moments historiques, politiques très favorables, très porteurs. Ce que ne sont plus les moments d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Il faut en tenir compte. Il faut voir comment on peut se défendre de ça. Voilà.
Tu n'as pas répondu à la question s'il y avait une coordination entre les lieux alternatifs.
Et en l'occurrence, oui, j'ai oublié celle-là.
Rapidement, quand même.
Ouais, très rapidement. Donc, oui, il y a il y a ce que moi je considère être une coordination. Il y a un groupe qui s'appelle la Fédération des innovants, qui s'appelle la FESPI. Il y a un groupe qui a essayé, à partir de 2005, hein, ça date pas d'aujourd'hui, et encore, on peut la faire remonter à quelque chose qu'on avait lancé dans les années, fin des années 90, en 97 à peu près, qui s'appelait Initiative éducative. On avait lancé quelque chose qui permettait de rassembler tout ça, en 2002, on a fait un grand barouf sur Vitruve qui s'appelait Survenir pour fêter la commémoration de l'école Vitruve depuis 40 ans à l'époque. Et donc, on a lancé ça. La FESPI est née en 2005 et regroupe un certain nombre de lieux alternatifs pour coordonner quelque chose, notamment vis-à-vis des autorités académiques, rectorales, etc., ou municipales d'ailleurs, hein, qui regroupent un certain nombre de lieux éducatifs, plutôt collège, plutôt lycée sur la marge, plutôt collège sur la marge, mais aussi l'école Vitruve. Et puis d'autres, hein, je crois que De Crolly est toujours. Voilà, donc il y a un certain nombre de lieux comme ça qui sont des lieux très importants, des lieux de réflexion et de discussion, et il faut les maintenir. Après, est-ce qu'ils ont la force politique d'y arriver? Je ne sais pas.
Ok, merci pour tout ça. On précisera peut-être les choses ultérieurement. On va passer maintenant la parole à Isabelle Aubel, qui a été elle aussi... Ah non, à Monique qui veut un petit temps de parole avant. Mais non, tu peux te préparer, Isabelle.
Je voudrais surtout une petite pause musicale de 2 minutes.
Eh bien, vas-y. Pause musicale.